Alors bonjour et bienvenue à Y voir clair, une série balado où on prend le temps de comprendre la déficience visuelle, d'en parler simplement, mais aussi de déconstruire ce qu'on pense savoir. Alors, je suis Nathalie Barrette, je suis voyante et comme bien des gens, je me pose plein de questions. Et pour y répondre, comme à l'habitude, je suis accompagnée de ma gentille partenaire Bianca Lucier Dalpé, SRDV, comme on dit dans ton jargon, Bianca, spécialiste en réadaptation en déficience visuelle. Alors, à vous tous, un bon épisode. Alors, salut Bianca.
Bonjour Nathalie.
Comment vas-tu?
Ça va très, très bien.
Oui, oui. Bon, on est contente. Le printemps arrive, oui. Il fait beau. L'été, oui, c'est sûr. Il fait beau. Mais oui, ça fait du bien. Alors, aujourd'hui, Bianca, on reçoit Serge Lot, un homme qui a choisi de remplir sa vie plutôt que de la regarder passer. Serge est actif et curieux. Il est toujours en mouvement malgré une déficience visuelle qui est présente depuis sa naissance. Toi, dans ton travail, est-ce que tu vois souvent des gens qui se mettent eux-mêmes des barrières?
Ça, c'est une grande question parce que je pense qu'il y a des gens qui ont eu des barrières des fois par d'autres personnes, que ce soit des parents qui les ont protégés beaucoup, que ce soit des difficultés dans leur enfance, tu sais, fait que ça peut faire après, ça peut changer, ça peut forger le caractère, tu sais. Mais je pense, par contre, que les plus grandes barrières, c'est vrai que ça fait peut-être cliché à dire, mais c'est souvent de l'intérieur, c'est de penser que quelque chose n'est pas possible à tort, hein, dans le fond. Puis des fois, la seule façon de vérifier si quelque chose est possible ou pas, c'est de l'essayer, tu sais. Moi, je dirais que dans mon travail, au contraire, je vois plus souvent des gens qui me surprennent avec ce qu'ils font. Je suis plus souvent surprise par les choses incroyables que les gens peuvent faire que par les barrières que les gens vont se mettre.
Effectivement, parce que, écoute, on va en parler, mais Serge, quand je dis remplir sa vie, là, c'est remplir sa vie. Serge, bonjour, merci d'être avec nous.
Bonjour à vous deux. Bonjour.
Serge, votre DV, votre déficience visuelle, c'est de naissance, c'est pas une maladie. Qu'est-ce qui s'est passé précisément?
Il y a quand même un bout de temps. C'était un accouchement difficile. Ils ont pris les forcettes, il a trop serré la tête, il a attaqué le nerf optique. Ce qui fait que j'avais aucune vision de l'œil droit. L'œil gauche, je voyais quand même un peu, mais je ne me rappelle pas d'avoir vu le visage.
OK.
Je différenciais mes couleurs, les contrastes, mais pas les autres. Là.
Puis vous avez reperdu la vision après ça? Maintenant, c'est...
Ça fait environ 35, 40 ans peut-être. Le temps passe assez vite. Là.
Oui. Mais donc, la vision de votre œil gauche...
Oui.
C'est une maladie dégénérative?
C'est parce qu'il se fatigue aussi, parce que là, j'ai juste un œil qui travaillait.
OK.
Puis probablement que c'est ça, dégénérative. Là. Il a suivi l'autre. Là.
Ah okay. Oui, OK. Fait qu'un œil peut trop forcer et être fatigué.
Mais ça existe. Du côté médical, je vous dirais, je pourrais pas expliquer pour vous, mais je sais que moi, ce qu'on m'avait dit quand j'avais une déficience visuelle, quand j'étais plus jeune, l'optométriste, je me souviens, l'ophtalmologiste avait dit... On ne s'use pas la langue à parler, mais c'est un petit peu la même chose avec les yeux. Tu sais, mettons qu'on parle beaucoup, on ne va pas dire « j'ai la langue usée, j'ai trop parlé ». Puis il disait « c'est un petit peu la même chose avec les yeux, on peut être fatigué, on peut ressentir de l'inconfort, mais peut-être pas une perte de vision, mais ça se peut que votre nerf optique était déjà amoché pas mal, puis qu'avec le temps…
Possiblement.
Hein, tu sais, ça a lâché ce qu'il y avait.
Il s'est décollecté.
Ouais. OK, parce que quand vous étiez jeune, vous aviez eu votre mère, vos parents avaient eu un diagnostic.
Oui.
OK. Ouais. Mais pas l'œil droit avait pas été attaqué.
L'œil droit, il a toujours jamais vu.
Ah, c'est ça, l'œil droit, jamais
vu. Puis l'œil gauche, il voyait les couleurs.
C'est ça.
Il voyait un peu, puis même quand j'étais ado, j'avais mon vélo, je me promenais tout seul en vélo. Puis...
Est-ce que vous pouviez lire et écrire, voir sur un papier?
Oui.
De plus proche?
Oui, c'est ça.
C'était proche.
Si je me rappelle, dans les années... Début 70, je me cherchais un logement à Montréal. Puis je prenais le journal de Montréal. Puis à peu près à quoi, là? Ça sentait l'encre, là.
Il était à peu près
2,5 pouces, 3 pouces.
OK.
Fait, je me cherchais là, un logement, mais aujourd'hui, là, je trouve pas le journal.
Ah ouais. Oh là là.
Je vois plus du tout aujourd'hui.
C'est parti d'un coup ou c'est parti graduellement?
Graduellement.
Graduellement.
Graduellement. Okay. Graduellement. Oui.
OK. Donc, votre jeunesse, on parle de l'école primaire. Ça s'est passé comment pour vous?
Bien, studio académique a été très, très, très court. J'ai fait la première, deuxième, troisième. J'ai pas fini ma quatrième.
Mm-hmm.
Justement, l'ophtalmo avait dit à mon père, ça ne donne rien de l'envoyer à l'école. Il fatigue son œil, puis à 12 ans, il va être aveugle.
Mm.
Fait qu'étant donné qu'on est en campagne, ben, mon père, possiblement, manque de connaissances. Parce que mon père, il est quand même... s'il est quand même arrivé au Canada, il avait 13 ans.
OK.
En 1913,
mm-hmm.
puis il avait 14 ans. Puis okay. il était tout seul, puis il a appris le français. Puis là, ben, les connaissances, mettons, qu'il, peut-être qu'il y en avait moins aussi. Là.
Alors, Lowe, votre nom, c'est Lowe, L-O-W-E?
C'est ça, irlandais.
C'est irlandais.
De Londres.
OK, irlandais de Londres.
Oui.
OK. Alors, donc, vous étiez... bien, qu'est-ce que je me trompe? On a souvent reçu des gens... Et les gens qui ne sont pas nécessairement dans la grande métropole ou la grande région métropolitaine, c'est toujours plus dur. Ou est-ce que c'est une question d'époque? C'est une question... Non, pas du tout?
Non. Même aujourd'hui, regarde, juste le transport adapté. Là.
Ouais.
À Montréal, là, les environnements, c'est très facile. Là.
Mm-hmm.
Mais va-t'en dans mon coin, là, dans Charlevoix, ou va-t'en dans les Laurentides, n'importe où, le transport adapté, c'est pas facile.
Mm.
C'est pas facile, c'est pas développé.
Puis, tu sais, le transport en commun aussi, c'est la même chose.
Quelqu'un qui
perd l'accès à la voiture à la campagne,
mm-hmm.
c'est beaucoup plus difficile qu'en ville où les personnes peuvent apprendre à se déplacer quand même,
mm-hmm.
de prendre le métro, l'autobus, tu sais. Fait que les services, il y en a moins, je pense, en région. Ça veut pas dire qu'il y en a pas, mais c'est ça, il y en a un petit peu moins. Tandis qu'ici, bien, vu qu'il y a une concentration de personnes avec une déficience visuelle à Montréal, bien, il y a beaucoup dans la région de Montréal, sur Rive-Sud, Rive-Nord, mm-hmm. il y a beaucoup de personnes qui ont une déficience visuelle. Fait que, ayant beaucoup de personnes, tu sais, tantôt, on a reçu un autre épisode, Mme France Durette, elle disait, bon, on a quoi, 200 membres.
Ouais.
On a eu le Cercle des aveugles, ça, c'est le Cercle des aveugles Ville-Marie. On a eu aussi les... Mais ça, je pense qu'ils sont partout au Québec. Le groupe, il ne faut pas que je me trompe dans le nom, tout seul, on est...
Ensemble, on est moins seul avec
nos cannes blanches. Ça, c'est partout au Québec, ce groupe-là, je pense.
Ça, c'est partout au Québec. Ouais. C'est partout au Québec. Puis ça a pris le jour
Pendant la pandémie?
Oui, durant la pandémie, oui. Au mois de... En 1920, excusez.
Ça, c'est la grippe espagnole,
excusez,
à cette époque-là.
Décembre 2020.
Ah, 2020. Mais, okay. On va en reparler tantôt parce que vous faites partie de ce regroupement-là.
Peut-être que la technologie va aider pour que les gens qui sont en région, justement, tu sais, aient accès à certaines choses.
Ouais.
Que, tu sais, on dit que c'est peut-être plus difficile à l'extérieur de Montréal. Bien, les groupes comme ça peuvent aller chercher. Mais je pense qu'on a plus de possibilités d'organismes variés en région. Mais, à Montréal, pardon.
Mm-hmm.
Mais je pense aussi que... L'époque en plus, dans le sens que j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, il y a plus de, tu sais, s'assurer que les enfants vont voir un médecin, que la vision est évaluée. J'ai l'impression que ça arrive moins souvent de quelqu'un que, tu sais, qu'on lui recommanderait pas d'arrêter l'école.
Non, c'est là, ça que je, c'est ça que je voulais dire. En quatrième année, on dira pas à personne, OK, t'arrêtes l'école.
T'arrêtes l'école, c'est trop forçant à regarder, tu sais, ça va nous chicoter quand on entend ça, hein? On n'aime pas ça.
Si mon père avait été au courant, possiblement, que je serais venu à Montréal, à l'Institut Louis Braille,
ben
parce que toutes mes tantes, mes oncles étaient à Montréal. C'était
ça aurait été possible, en plus.
C'était facile, là.
Mm-hmm.
Mais,
Alors,
votre jeunesse, adolescence, vous étiez dans la région de Charlevoix.
Oui, oui.
Ça n'a pas dû être une adolescence très facile.
Non. Moi, je ne me suis jamais arrêté à ça, moi.
C'est ça que je veux vous entendre dire.
Je ne me suis jamais arrêté à ça, moi. Regarde, disons, on était à 40 km de la Malbaie, la ville la plus proche.
Oui.
Puis on partait sur le pouce. On allait danser à la Malbaie. Puis à minuit le soir, on revenait sur le pouce, on s'en venait.
Mm.
Je ne me suis jamais arrêté à mon handicap. Moi, j'ai fait du ballon-ballet, j'ai eu 3 motoneiges, puis j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de sport.
OK.
Beaucoup de sport. Mais je ne me suis jamais arrêté à mon handicap.
Puis est-ce que des fois, ça se pouvait... Des sports, vous ne faisiez pas des sports de ballon, j'imagine?
Ballon sur glace, ça.
Puis est-ce que c'était pas plus difficile de repérer la balle, puis de...
J'étais gardien de vue.
Ah, okay.
Ah ben, mais c'est bien, non?
Si elle m'attrapait, je l'arrêtais, mais j'ai
pas trop. Oh my God!
On est là pour s'amuser.
Ben oui!
Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir des commentaires puis d'avoir dû comme un peu vous battre pour vous faire une place malgré la déficience visuelle?
En campagne, non.
OK. Ah, ouais. Ça, c'est étonnant.
Ben oui.
Il y a quelque chose qui est mieux à la campagne, là.
Non, mais il y avait juste moi qui étais handicapé visuel.
Ben, ouais. C'est ça, justement.
Mais non, moi, j'ai mis quatre sur table tout de suite. Ils n'ont qu'à voulu m'intimider au début, mais gars, à grandeur, j'étais, là, j'ai mis ça en place. Puis jamais, j'ai été intimidé, là.
OK.
OK, mais là, vous avez parlé de motoneige, là.
Ben, j'ai eu trois motoneiges. C'est... Le jour, c'est juste un tapis blanc. Fait que c'est ma femme, au début, qui me poussait sur les coudes pour conduire.
Comme les rênes d'un cheval, là, qui vous tire à gauche.
Elle était assise à puis me poussait ses coudes.
OK,
puis
le soir,
mais étant donné que je voyais un peu, ben, je voyais venir les autres motoneiges, puis je voyais le sentier.
OK, oui, c'était plus facile
mais ça,
le soir.
Je pouvais le faire tout seul.
Okay. Aujourd'hui, je sais pas, là, je dis ça de même, est-ce qu'il faut un permis de conduire?
Je sais pas. Moi, quand j'étais jeune, je faisais la même chose. Moi aussi, j'ai fait de la motoneige.
Tu conduisais de la motoneige,
ouais,
toi?
Oui, mais moi aussi, toujours avec quelqu'un. Mais là, je dis ça à la radio, c'était dans les années 90.
Oui, c'est ça, c'est gênant.
Je pense
là.
Que dans ce temps-là, il y avait moins, c'était légal. Là. Il n'y avait pas de permis pour faire de la moto, mais j'étais toujours avec une personne qui voyait bien. Mais oui, j'ai fait motoneige, quatre roues, trois roues.
Oui, motoneige, aujourd'hui, ça prend un permis de conduire, puis ça te prend une licence pour aller sur les sentiers. Moi, au début des années 70, j'ai parti de Bois-Filion jusqu'à Terrebonne sur la 640.
Oh boy!
La 640 n'était pas ouverte. Elle était toute éclairée, mais...
C'était pas une autoroute encore.
Elle n'était pas ouverte encore aux véhicules.
OK.
Fait que dans ce temps-là, on cherchait la neige aussi. Il n'y avait pas beaucoup de neige. Fait que Bois-Filion, puis Terrebonne.
Mais c'est, j'imagine qu'en risquant, en faisant des trucs comme ça, Serge, que vous êtes devenu très con. Vous avez... Je pense que vous avez une grande confiance en vous, là.
Bien, on me dit téméraire.
Oui, c'est ça, hein, c'est
mais
vous,
ma
vous
témérité
aimez
m'a
ça.
Bien servi.
Ouais. Ah oui, hein?
M'a Qu'est-ce que servi. Vous voulez dire par là?
Bien, c'est parce que j'ai fait du ski alpin, puis personne ne me voyait faire du ski alpin, puis j'en ai fait quand même 27 ans, puis j'ai juste une épaule disloquée.
Juste ça?
Juste ça. J'en ai pris des fois. Je me souviens, en tremblant, là, la fille, elle me guidait, elle assise en arrière de moi. À un moment donné, je l'entendis. Ben, là, j'avais plus de neige en dessous de mes skis. Elle dit, Serge, t'es-tu correct? Je me lève la tête, était 20 pieds plus haut, je suis au travers des arbres.
Non.
Mais regarde, je suis allé faire de l'équitation à un moment donné, puis l'équitation, la selle a certainement été sur la droite.
Elle glissait.
Puis je ne l'ai jamais lâché. Assez que les pattes du cheval en avant te tapaient sur le bras. Mais il ne fallait pas que je lâche. Il n'y en a rien qu'il ne voyait pas non plus. Là.
Mm.
Fait que c'est ça. Non, j'ai toujours été téméraire.
Puis quand vous dites que ça m'a bien servi, le fait d'être téméraire, c'est dans quel sens?
Bien, si je ne l'avais pas eu essayé, ça n'aurait pas fonctionné.
Oui.
J'ai dit je l'essaie. Puis j'en ai essayé des choses, mais ben, d'essayer. Je ne pouvais pas jouer au baseball. Je n'ai jamais essayé au baseball.
Oui, 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 je comprends.
Des affaires du genre que je savais que je n'étais pas capable.
Mm-hmm.
Mais si on regarde, à un moment donné, pour mes 70 ans, au Tlumet à Cancun, j'ai fait du trapèze.
Oh, wow! Ah, ouais!
Ça fait que si j'avais pas été téméraire, je serais pas monté.
Non. Mais vous disiez aussi hein, que pour vous, c'est le meilleur handicap à avoir, une déficience visuelle.
Ouais, ouais.
Il y a peut-être des gens qui trouvent ça difficile à entendre, Bianca?
Ah, bien, tu sais, dans la vie, on n'a pas le choix de notre handicap.
Ouais.
Je pense que, je sais pas, moi, je serais curieuse de vous entendre là-dessus, mais moi, j'ai l'impression qu'on s'adapte à notre handicap. Une fois que, surtout si on le jeune, tu sais, moi, j'ai une déficience visuelle. Si on me disait, tu dois changer d'handicap aujourd'hui, je voudrais pas, tu sais, dans le sens que je suis adaptée à celui-ci, tu sais.
Ouais.
Fait que je sais pas si c'est la même chose pour vous, Serge, mais...
Je suis allée chercher un chien à Mira.
Mm-hmm.
Puis on parlait avec la cuisinière. Puis les aveugles veulent pas venir en fauteuil roulant. Puis les fauteuils roulants, le contraire, ils veulent pas venir avec.
Ah, parce qu'à Mira, ils voient toutes les populations.
Ben,
ils
ont
là,
les deux, ils ont
ouais.
les ça aussi.
Ouais.
Puis moi, je suis en croisière, puis je t'apprête à parler avec celui qui nous accompagnait, puis il dit, « Oui, mais toi, c'est quoi? » Il dit, « Toi, tu vois pas. » Ben oui, mais je vois pas. J'ai dit, « Moi, j'ai le plus bel handicap que tu peux avoir. » J'ai dit, « Garde, non, je vois pas. Je prends pas de médicaments, mais même pas de gouttes dans les yeux. Je suis en fauteuil roulant, là, t'es médicamenté, tu peux pas sortir. Moi, 3 pouces de neige, l'hiver dehors, je sors quand même.
Mm-hmm.
En fauteuil roulant, tu peux pas sortir. »
Mm-hmm.
Quelqu'un en fauteuil, ça serait intéressant qu'on ait quelqu'un en fauteuil roulant ici.
Qui nous dise probablement le contraire en disant, ben moi, je me suis habitué à vivre avec mon fauteuil roulant.
Mais
Puis, c'est ça.
Juste
c'est...
un exemple. Si j'étais en fauteuil roulant, là,
ouais.
Est-ce que je serais rendu là, là? Avez-vous une rampe pour monter ici, les
escaliers? Oui, on a une rampe à Mathieu.
OK. Parce oui. que si on regarde, là, revenir à une autre affaire.
Oui.
En Chine.
Oui.
En Chine, là, je suis parti de Pékin, aller jusqu'à Hong Kong.
Mm-hmm.
On n'a pas vu un fauteuil roulant, on n'a pas vu une canne blanche. Mm. Les madames, on est dans les parcs, ils n'ont même pas de poussettes. Ils ont des enfants qui peuvent marcher par la main,
mm-hmm.
puis ils ont les enfants accrochés dans le dos et dans le cou.
Mais mm-hmm. ils n'ont pas de truc pour des roues au sol.
Il y a
rien qui roule au sol.
Il n'y a pas aucune rampe pour monter, parce que tu t'en vas partout, c'est deux marches, trois marches. Tu rentres au dépanneur, tu montes deux marches, il n'y a pas de rampe à nulle part. Là.
Mm.
Tu vas, c'est une rue commerciale. Toutes mm-hmm. les boutiques que tu rentres, montent deux marches, trois marches, deux marches, trois marches. Fait que si j'avais été en fauteuil roulant, j'aurais pas été
Vous n'auriez pas visité. Oui, c'est ça. D'ailleurs, je vais en parler parce que quand on dit que vous vous arrêtez pas, vous vous êtes jamais arrêté, vous avez voyagé beaucoup. Vous avez voyagé énormément. On va commencer par des croisières.
Oui.
Faire des croisières. Puis là, la question, moi, je vous la pose, mais c'est vous l'avez entendu, là, des gens qui vous disent, bien, pourquoi tu voyages, tu vois pas. Vous, mm-hmm. On vous a déjà dit ça. Fait que donc, vous faites des croisières, puis lorsque vous faites des croisières, vous faites aussi les fameuses sorties, les fameuses excursions.
Mm-hmm.
Mais mm-hmm. là, vous ne voyez pas. Le rôle de votre accompagnateur, votre conjoint ou à l'époque, quel est son rôle exactement? Puis jusqu'à quel point vous l'impliquez? Jusqu'à quel point vous lui demandez qu'est-ce qu'on est supposé voir? Ou qu'est-ce que... C'est quoi le rôle de votre accompagnateur?
Bien, qu'est-ce qui arrive, c'est que mon accompagnateur m'a sorti de la maison, là,
ouais.
sorti de mon entourage.
Oui. Mm-hmm.
Moi, je ne suis pas autonome.
Ouais.
Moi, à bord d'une croisière, je suis autonome dans la cabine.
Oui.
Mais autrement, je ne peux plus sortir tout seul.
OK.
Il faut toujours qu'elle soit là.
OK.
À un moment donné, on est au Chili, puis on va voir les dunes de sable.
Mm-hmm.
OK. D'une de sable, à ma gauche, là, t'as un mur de sable, ça doit faire peut-être 20 pieds de haut, là.
Mm-hmm.
Le sentier, il y a à peu près... Oh, il n'y a pas 3 pieds de large, là. Puis à droite, c'est le précipice, c'est la mer.
Mm-hmm. OK, quand même, hein?
Assez qu'on ne pouvait pas être un à côté de l'autre. Parce que moi, quand
il fallait se suivre.
Comme j'ai fait tout à l'heure, moi, je prends ton coude,
ouais.
puis on s'en va comme ça. Mais là, le sentier n'était pas assez large. Fait qu'elle s'est tenue en avant, a pris le bout de ma canne, puis moi, je suis en arrière, puis je suis vers la canne.
Mais c'est ça que vous aimez, hein? C'est ça.
Ben, ouais.
ben, non, mais c'est ça. Tantôt, il parlait de ski alpin. Vous m'aviez dit, quand on a jasé ensemble, vous me disiez, je prends pas des débutantes. Vous prenez pas des pentes débutantes, vous.
Non, je peux pas. Ouais. T'as pas de feeling de pente.
Tu sais pas où tu t'en vas.
Ouais. Non, moi, c'est intermédiaire, puis des noirs, des doubles noirs. Moi, plus c'est à pic, moins j'ai de problèmes avec l'équilibre. Pour moi.
Oui.
Les autres, je peux pas parler pour eux autres, là.
Parce que vous, tu sais, il y a peut-être des gens qui vont dire « Je fais du ski, mais je regarde le paysage. » Je profite. Vous, c'est de la sensation que vous voulez.
Ben, ce que j'ai entendu le plus, il n'a pas peur. Il voit pas ce qu'il va.
Oui.
Hein, il voit pas. Il n'a pas peur. Il sait pas. Non. Dans le
ben,
temps,
vous le sentez, dans le fond. C'est le feeling, vous le sentez.
Dans le temps, on va commencer à avoir des casques de ski en 99. Moi, j'ai commencé à faire du ski en 90. Puis je lui disais... Quand le pompon passe par en avant, ça veut dire que ça descend. Il n'y a pas de crainte de tout ça. Puis là, on était au Québec à un moment donné, puis il y a deux madames qui arrivent en arrière d'une autre en bas. Merci, monsieur. Ben, merci, pourquoi? Ben, elle dit, ces pentes-là, là, on ne les faisait pas. Elle dit, on a vu les aveugles qui y allaient. Elle dit, pas pire nous autres. Puis elle dit, on les a faites, puis c'est correct. Merci.
mais quand même,
vous les avez inspirés.
Ouais, j'en ai fait du ski longtemps dans ma vie, puis effectivement, quand tu arrives en haut de la pente de l'experte, la noire, puis que c'est à pic...
Ça fait peur.
Oui.
Mais vous le sentez, vous, le degré
d'inclinaison
de la pente, vous le sentez?
Ben oui, mais oui, c'est comme ça. C'est comme je te dis, quand je suis allé en faire dans les Alpes françaises, qu'est-ce qu'il va aller faire dans les Alpes? Il est tout seul de ski au Québec, il ne voit pas pareil.
Ouais. C'est fou de se faire dire ça. Vous vous faites dire ça?
Bien, souvent.
C'est comme si les gens ils pensent que la seule chose intéressante dans un voyage, c'est...
Souvent.
C'est
ben, j'ai dit non, regarde, t'es en haut, il fait moins 10 degrés, tu descends en bas, t'arrives en bas, il fait 3, 4 degrés. Tout en descendant, la texture de la neige change.
Mm.
T'arrives en bas avec presque du ski de printemps. Ben, regarde, c'est agréable, là.
Mm.
C'est agréable.
Est-ce que des fois, vous vous demandez... Ou les gens avec qui vous êtes, est-ce que vous leur demandez de quoi le paysage a l'air?
Ah, ils me le racontent.
Il le raconte.
Ça dépend des gars. Ils me disent qu'est-ce que les petites madames ont l'air en avant de nous autres. Mais je m'y contacte.
Ah! OK, mais si on ne parle pas des petites madames, là, puis qu'on parle du paysage...
Non,
le beau temps, on fait des farces.
Oui. Les arbres sont pleins de neige.
Mais est-ce que ça vous intéresse ou pas tant que ça, vous?
C'est le fun de le savoir. Mm-hmm. C'est le fun de savoir, mais il y a des choses qu'aujourd'hui, là, il y a des choses que t'es bien mieux de ne pas voir.
Mm. Wow. Oui, effectivement.
Puis s'il y avait quelqu'un, tu sais, qui voit bien, par exemple, puis qui comprend pas pourquoi quelqu'un qui est non-voyant aime voyager, comment vous l'expliqueriez, ce que vous allez chercher en voyage?
Moi, mes voyages, comme je dis toujours, je les vois pas, mais je les vis.
Ah, wow!
Je les vis, parce que, regarde, en Chine, exemple, là, où il y a 27 dans l'autobus, puis tout le monde donne son commentaire, puis c'est comme si je le voyais.
Ils vous décrivent,
c'est décrivent, ça? Ils décrivent qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui est arrivé, puis ils regardent ça, puis là, ça le monde s'arrive, puis ça, tout, c'est ça. Quand je suis revenu de mon voyage, j'étais à la maison, j'étais au téléphone, je parle avec mon gars, puis je lui raconte mon voyage. Ma conjointe, elle broyait, parce que c'était exactement ce qui est arrivé.
Mm-hmm.
Mmh. Fait que vous...
Faut que je sois à l'écoute.
Ouais. Ouais. Vous ressentez... Et quand vous êtes en voyage comme ça, quel sens prend le relais davantage, l'ouïe, l'odorat ou tout ça en même temps?
Ouais, tout ça en même temps. Oui. Ben, l'ouïe, c'est... Si tu veux faire un bon aveugle, si tu as fait des bonnes oreilles, ça va pas bien, là.
Mm-hmm.
Fait que c'est... Puis c'est la mémoire. Ouais. Comme je disais, à un moment donné, c'est là encore. On est dans un parc... Puis on marche. Puis à un moment donné, il y avait un laurier, des feuilles de laurier, mm-hmm. L'arbre.
Mm-hmm.
Et quand je suis arrivé le soir, j'ai dit, « As-tu vu l'arbre de laurier? » Regarde, quand on a traversé le typhon, il était à droite. Il était effectivement là.
Ah oui, hein?
Ah oui. C'est des... Regarde, c'est... Faut t'écoutes, puis mm-hmm. c'est la mémoire.
On en a déjà parlé, ça, Bianca, des... Les sens qui, on s'est déjà dit, tu sais, est-ce qu'on est plus fort, est-ce que notre odorat est plus développé, mm-hmm. parce qu'on n'a pas... On en a déjà parlé de ça, mais c'est pas nécessairement qu'on a les sens...
Oui, c'est pas que c'est le pas nez, que... il sent plus.
C'est ça.
C'est pas que l'oreille entend mieux, c'est la non. même oreille, c'est le cerveau qui est différent.
C'est ça.
Quand ça fait longtemps ou qu'on est avec une déficience visuelle, il y a ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, le cerveau, il s'adapte, puis il va plus porter attention à ce qu'il va sentir, à ce qu'il va entendre. Fait qu'on fait avec ce qu'on a, autrement dit, puis le cerveau, il va tirer s'adapte. Le meilleur de chaque sens.
Parce que vous autres, vous voyez, mais nous autres, comment qu'on dirait, on le voit pas. Ça fait que faut écouter, faut sentir. Puis des fois, tu te promènes sur la rue. Là. Je pense ici, là, c'est le Tim Hortons.
Voilà, le McDonald's, le Tim Hortons.
C'est ça.
Il y a des odeurs assez marquantes comme celle-là.
Des odeurs. Puis regarde, moi, comme je t'ai dit, je suis né dans Charlevoix.
Mm-hmm.
À un moment donné, j'ai parti avec mon ex, puis on est allé à Bécamo.
Okay.
Je n'avais jamais été à Bécamo. Comment est-ce qu'on va faire? Moi, de guider. Fait qu'on s'en va. Ah, on est rendu à peu près à telle place. Ah, regarde la pancarte, on est rendu là. On va aller coucher chez ma soeur. Je sais pas, je te caresse. Mets ton flash, là.
Ben, voyons.
Tourne à droite, elle est là.
Ça, c'est une question de mémoire, là.
Ben, de mémoire, puis si ça arrive sud, non, ça côté nord, oui. Mais si ça arrive sud, je n'ai pas été assez souvent pour avoir des points de repère. Fait qu'il y a toujours... À un moment donné, je pars avec un autre à Baie-Saint-Paul, on va arrêter de se prendre du fromage. Ben, je ne sais pas où la fromagerie. Moi, tu te dis, roule. Mets ton flash à gauche, là. Non, je ne la vois pas. Mets ton flash à gauche, elle est là. Il rentre dans le stationnement.
Ça aussi, la mémoire, bien
clair.
Ben,
la mémoire, puis comme je te dis, les points de repère. Parce que juste avant la fromagerie, il y a un bon détour, une bonne curve.
Mm-hmm.
Fait que moi, je vais par là, puis il est
C'est de développer sa mémoire.
Oui.
Ben, il faut avoir des points de repère, hein, tu sais, quand on se déplace, de dire, ben après, c'est ça, après le tournant, ça tourne à gauche. Souvent, les gens, c'est comme plus une représentation mentale du chemin, tu sais, mm-hmm. de dire. Ouais.
Est-ce que les gens vous ont déjà mis des bâtons dans les. Parce que, tu sais, c'est pas commun, là, aller en Chine, puis aller marcher dans les dunes, puis sur le bord des falaises. Est-ce que c'est arrivé qu'il y a des gens qui vous aient mis des bâtons dans les roues?
En Chine, la madame, elle ne voulait pas me vendre les billets. Qu'est-ce qu'il va venir faire en Chine? C'est culturel, oh. C'est les paysages, c'est les montagnes.
La personne de l'agent de voyage, là?
L'agent de voyage.
Ah, oui!
Ah oui, l'agent de voyage. Parce que ma conjointe, il a dit, mon conjoint est handicapé visuel, c'est un problème. Oui, mais qu'est-ce qu'il va venir faire en Chine?
Elle ne comprenait pas, c'est ça. C'était quoi l'intéressant pour vous d'aller là?
Ah oui, regarde, mais non, je suis allé, j'ai dit non, donne-moi mon billet, là, puis je m'arrange avec le reste.
Mm.
Puis j'ai bien aimé mon voyage, puis c'est ça, là. Comme je dis, je l'ai vécu.
Mm.
Il y a juste du cheval que j'ai pas fait.
J'ai fait de l'avion. Il n'est pas trop tard.
J'ai fait de l'avion, j'ai fait du TGV.
Vous pilotiez un avion? Vous avez piloté un avion?
Non.
OK.
Non, j'ai pris l'avion.
Ah, OK.
tout est possible.
Ben oui, avec vous, Serge, tout est possible. La motoneige, je dirais que c'est de la motoneige, il y a quasiment plus de circulation que dans le ciel. Là.
Mais j'ai déjà conduit un auto sur la grande route, sur la 138.
Ah, vous aviez quel âge?
Puis c'est moi qui conduisais, ça. J'étais une vingtaine d'années.
Mm, OK.
Un peu inconscient, là.
Mm. Ouais, oui.
Téméraire.
Bon, on est tous un peu téméraires quand on est jeune.
Mais je travaillais sur une run de lait, puis à 70 % c'est moi qui conduisais.
Mm.
J'avais un chauffeur au cas où, là.
Puis votre famille, là, est-ce qu'ils s'inquiétaient pour vous?
Dans leur demander, mais là, ils sont plus là. Il en reste toi. ma soeur me couvait pas mal. Si j'avais eu resté à Saint-Siméon, si j'avais eu resté là-bas, je ferais pas ce que je ferais aujourd'hui, puis peut-être que je serais un petit peu plus large.
Ça serait intéressant d'en parler, ça.
Ouais, oui, parce que je pense que, tu sais, quand je dis faire mettre des bâtons dans les roues, surprotection, c'est un peu ça aussi, là, de dire qu'on est surprotégé. Vous auriez pas fait tous les voyages que vous avez faits.
J'ai 50 ans, j'arrive chez elle, je m'assois à table, le café, il est là, il est brassé, il rajoute le bras.
c'est ça.
Écoute, gars, laisse-moi faire chez nous, c'est moi qui le fais, mon café, là. Là, il y a une lumière au plafond, son chose, il y a une lumière de brûler. Donne-moi une lumière, m'attachant. Touche pas ça.
On va faire une courte pause et on continue notre conversation avec M. Serge
Lowe. Curieuse de savoir ce qui vous a fait quitter Saint-Siméon après la pause.
Oui, c'est ça.
Écoutez Y voir clair avec Bianca Luchier-Dalpé et Nathalie Barrette.
On est aujourd'hui avec M. Serge Lowe, qui nous racontait juste avant la pause, qui demeurait avant à l'époque à la campagne, Saint-Siméon, si je ne me trompe pas, c'est ça, M. Lowe?
Oui.
Puis vous avez dit, ma soeur là-bas, elle me surprotégeait un peu, là, tu sais, changer les lumières, brasser le café, préparer tout pour vous.
Ah ben oui.
Puis vous avez dit, si j'étais restée là, ça aurait peut-être été différent ma vie, mais je suis partie. Qu'est-ce qui vous a amené à changer, à quitter, à vouloir, dans le fond, changer votre vie?
Vouloir faire quelque chose de ma vie.
Mm-hmm.
Je suis venu à Montréal pour avoir un travail.
OK.
Je suis arrivé en septembre 69, puis en novembre, je commençais à travailler dans une imprimerie de carton. D'une imprimerie, on imprimait puis on fabriquait des boîtes d'emballage.
Puis dans ce temps-là, vous aviez un petit peu de vision encore?
Un peu.
Puis est-ce que c'était...
Un peu. J'ai travaillé jusqu'en 84. En 84, c'était à peu près la dernière fois que je pouvais écrire. J'avais de la misère à me relire, mais j'écrivais un peu. Mais depuis 84, c'est fini.
Puis pour votre travail, il fallait... Qu'est-ce que vous deviez faire?
Les 6 dernières années, j'étais opérateur sur un caisse et leur fermé caisse.
OK.
Ça fait que j'avais 3 machines à fournir, le convoyeur, j'étais rentré dans la machine. Moi, ce que j'avais à faire, c'était d'opérer la machine, changer les rouleaux de papier, de colle pour les choses du genre, puis c'est ça.
Et voilà. C'était pas dangereux?
Non.
Il n'y avait pas de danger pour vous?
Non, parce que l'INCA est venu l'approuver.
Ah.
Parce que mon patron, à cause d'assurance, il voulait pas, puis finalement, il dit, gars, j'ai fait venir M. Taillon de l'INCA, puis il est venu approuver la machine, il m'a regardé travailler dessus, il dit, non, il n'y a pas de problème, il peut y aller. Sauf que s'il m'arrivait un accident, ben, le patron n'était pas responsable.
Responsable. Ah, OK. Voilà, OK, OK,
voilà. Fait qu'il y a des vérifications comme ça qui se font bien cas dans les entreprises.
Mais là, c'est peut-être différent un peu aujourd'hui. Je pense plus que les NCA. Mais tu sais, quand les personnes ont des doutes, ils peuvent toujours contacter le centre de réadaptation pour voir. Mais mm-hmm. c'est du cas par cas, je vous dirais. Là, OK. Ouais, c'est peut-être pas en grande d'aller valider. Peut-être ça a peut-être un petit peu changé. Mais tant mieux. Tu sais, vous, ça vous a permis de pouvoir le continuer à faire votre travail puis en sachant que, tu sais, vous étiez sécuritaire, tout ça. Mm-hmm. Est-ce que c'est parce que quand vous étiez à Saint-Siméon, il n'y en avait pas de possibilité pour vous?
Oh non, il n'y a pas de travail. Oh non, non. Même ceux qui voient, il n'y a pas beaucoup de travail à Saint-Siméon. Là.
Fait que dès que vous étiez jeune, vous avez dit, moi, je vais devoir partir?
Ben, j'ai commencé quand j'étais ado, là. J'ai commencé à y penser. Puis,
OK. Et la déficience visuelle n'avait pas un lien avec ça?
Ben oui, oui et non. Oui. Voilà okay. que là, je suis venu à Montréal. Puis on m'en va offert un poste en 65. On m'en va offert un poste ici à l'INCA. Finalement, ça valait pas la peine. Non?
OK.
Ça me coûtait plus cher travailler que rester à la maison.
Ah, ouais. Vous l'avez pas pris, celui-là. Mauvais, non, ça valait non. pas le calcul.
Je l'ai pas pris, ça. Alors, je sais compter. Il faut être à l'école longtemps.
Assez pour savoir que ça valait pas la peine.
Là, Serge, en tant que gars autonome, hyper autonome, là, vous vous êtes dit, je travaille plus en imprimerie, je vais apprendre la musique. Ça ressemble-tu à ça? Vous avez décidé d'apprendre la musique alors que vous ne connaissiez pas la musique. Là non, vous n'aviez plus de vision là, à ce moment-là.
Non, j'ai commencé à jouer de l'accordéon. Je n'avais jamais touché un accordéon.
Vous aviez quel âge? Piano.
Puis quoi?
J'avais un accordéon piano. C'était en 86.
Là, vous aviez quel âge? On ne veut pas dire quel âge j'avais aujourd'hui, mais...
On va le laisser déduire, non? Mais vous avez appris adulte, dans le fond, c'est un peu ça.
Oui,
vous avez appris
oui,
la musique
oui,
adulte.
Oui, oui, oui. J'étais vacciné.
OK.
Puis vous vous êtes dit, je veux en faire un travail ou c'était un loisir au début? Ou vous vous êtes dit, moi,
ben,
je veux vivre de ça?
À un moment donné, c'est parce que je faisais 14 ans que je travaillais dans l'imprimerie. Mm-hmm. Puis là, ben, on m'a congédié à cause d'une autre personne qui était jaloux, qui voulait avoir ma place.
Ah, OK. C'est
fait difficile. Que moi, je me suis postiné, fait que je suis parti. Après ça, on avait ouvert un magasin sur la rue Saint-Hubert avec ma conjointe. Ça, on l'a fermé 2 ans après. Puis en 86, ben, là, il fallait que je fasse de quoi. Fait que on va aller dans le métro. Fait que j'ai commencé dans le métro, puis...
Mais là, l'accordéon, vous en jouiez... Déjà, vous l'avez vraiment
non.
appris tout de suite
non,
pour
non,
le métro?
Non. J'étais dans le métro, là, puis...
Je l'apprends là.
C'est là que je l'apprends.
Pratique générale dans le métro.
Ça faisait ce que ça faisait. Ça faisait ce que ça faisait, mais... En tout cas, regarde...
Ça ne doit pas toujours être...
C'est téméraire, c'est ça.
Quand on dit de la musique à mes oreilles, quand c'est doux, comme de la musique
ben
à mes
oui,
oreilles,
ben
ça
ne
doit
ben
pas
ben
toujours
ben
être ski dans le métro.
Fait que j'ai fait ça 18 ans, puis...
18 ans,
dans le métro.
Vous êtes amélioré, j'imagine, dans 18 ans.
Je te ferai jouer ça après la show. J'en vais jouer un extrait. Puis...
Vous avez joué aussi sur la plage Jacques-Cartier?
C'est ça. L'hiver, je jouais dans le métro, puis le printemps et l'automne, je faisais les ventes trottoirs.
OK.
Je travaillais pas sur le trottoir, je faisais les ventes trottoirs. Je faisais pas tout droit. Après ça, à partir du mois de juin, mi-septembre, j'étais dans le Vieux-Montréal, sur la plage Jacques-Cartier.
Hein? Fait que là, vous deviez être bon pour jouer sur la plage Jacques-Cartier quand même, là.
C'est parce que j'ai eu bien des trous, j'ai eu bien des... Hey, c'est la jungle.
Ah oui, hein?
La jungle,
dans
le,
quel sens?
Le meilleur spot, là, sont 8, puis c'est les 8, c'est contingenté, tu peux okay. pas te placer là, là. S'il y a personne, tu t'installes là, l'un arrive, l'autre, toi, de là, c'est moi qui joue, t'as pas l'affaire ici.
Mm.
Fait que moi, j'allais me placer plus loin, puis me tirais d'affaire quand même.
Mm. OK.
Me tirais d'affaire quand même, là. Il y a beaucoup, beaucoup de touristes, là.
Mm. Fait que c'est une belle période de votre vie, ça.
Ouais. Okay. Je me suis fait voler quelques fois, là, mais en tout cas, ça, c'est un autre dossier, là.
Mais c'est ça, parce que tantôt, vous avez dit ça, vous avez dit, quand j'étais à la campagne, bon, c'était plus difficile, l'école, bon, etc., là, tu sais, qu'on vous a pas conseillé de faire des études, mais vous avez dit, il y a juste en ville que je me suis fait intimider. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous avez dit ça? Est-ce que c'est ça,
premièrement,
dans ce sens-là?
Premièrement, quand j'ai perdu mon emploi, c'est un peu
l'intimidation. Ouais.
Puis dans le métro, pour ceux qui ne le savent pas, quand tu arrives à une station de métro le premier le matin, tu as des endroits spécifiques pour jouer dans le métro.
Oui, oui.
Bon, là, si tu es le premier, c'est toi qui fais la liste pour la journée. Dans le Nord, à toutes les 3 heures, tu changes de musicien. Fait que là, toi, tu arrives à 6 heures, 5 heures et demie, 6 heures.
Réserve une place, là, c'est ça?
S'il n'y a personne, okay. Tu joues.
OK.
S'il y a quelqu'un, faut que tu mettes ta liste. Bon, même à jouer à 3 heures cet après-midi, 3 à 6. Fait que tu mets ton nom.
OK.
Puis souvent, ben, j'ai pris la place de quelqu'un parce que je suis arrivé avant lui, il n'était pas content, puis il niaisait, puis... mon père est fort que le tien, ce genre-là. Là. Fait que lui, il a un accordéon. Puis, tu vois, comme vous voyez arriver, gna gna gna, puis il m'a tant niaisé. À un moment donné, je l'ai accroché. Il est attiré sur l'accordéon, il ne peut pas me toucher. Fait que j'ai accoté après le mur. Puis, là, regarde, toi, tu as arrêté là, de me niaiser. Là. Puis là, j'ai mis la face à pancarte. Puis là, je suis parti. Il est monté l'escalier en courant à l'envers. Ah, il m'a frappé. Non. Si je t'avais frappé, tu serais pas là. Un autre à Crémazie, il a la même affaire. Il joue de la guitare. Puis il est attiré sa guitare, puis il joue. Alors, c'est moi qui embarque à 3 heures. Lui, il parle anglais. Moi, il parle pas français. Puis moi, c'est le contraire. Là, je fais signe. 3 heures, c'est moi qui joue. Il continue à jouer. Il poigne les deux poignets. Il se twiste un petit peu.
Non, vous avez peur de rien, vous. Là, ouais, vraiment peur de rien.
Là, tu t'en vas. Là, tu t'en vas, là, parce que ça va aller mal. Là. Fait que finalement, il est parti. Une autre fois, à Viry. J'arrive, il est 4 heures du matin à Viry. Là, il y avait la liste. Non, il me semble que... Non, il n'y a pas de nom 3h30, il me semble. En tout cas, il y en a un qui arrive en arrière de moi, j'ai dit, y a-tu un nom 3h30? Il dit, oui, il y en a un. Ouais. OK, c'est bon, je m'en vais. J'arrive à 3h20, à Berry. Il arrive en arrière de moi. Il dit, j'ai dit, gars, un matin, quand je t'ai demandé s'il y avait quelqu'un 3h30, là, tu me dis qu'il y avait quelqu'un. Il dit, t'as mis ton nom. Pas toi qui joues, ça va être moi.
Fait que c'est ce genre d'intimidation, là. C'est pas, vous n'avez pas eu d'intimidation à l'école, jeune?
À l'école, non, à l'école, pas du tout.
C'est dans le monde adulte.
Non, c'est ça, voilà.
Le monde adulte peut être cruel, là, voilà, des fois.
Voilà.
On ne sait pas... On met souvent ça, l'intimidation, on pense que c'est juste dans les écoles, primaires et secondaires, mais... Même adulte, j'imagine les gens peuvent être victimes d'intimidation. Là,
je pense qu'il n'y a pas d'âge. Même dans les résidences pour aînés, ça doit arriver. Là,
exact, avec des différences. Monsieur Lowe, on parle depuis le début du fait que vous êtes un homme téméraire, que vous ne vous êtes jamais arrêté. Vous nous dites que l'handicap que vous avez, c'est l'handicap parfait à avoir si vous aviez à en choisir un. T'sais, vous vivez très, très, très bien avec la déficience visuelle. Mais qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui vient de recevoir un diagnostic? Parce que vous vous êtes privé de rien dans la vie. Là. Puis j'entends que vous avez un peu fui les gens qui vous ont mis des bâtons dans les roues, qui vous ont surprotégé.
Puis surtout quelqu'un qui est négatif.
Oui. Éloignez des gens négatifs?
Quelqu'un qui est négatif, là, qui... Bon, ben, regarde, tu vois, quand on va arriver au pont, là, on traversera la rivière. Mais attends d'arriver au pont, là, c'était ça son problème. Mm. Puis, tu vois, j'avais une autre idée, là. Regarde, OK, ensemble, on est moins seul avec nos cannes blanches.
Mm-hmm.
OK, on fait des salons ce soir. Puis on parle. Puis c'est toutes des personnes handicapées. À un moment donné, on est au restaurant, on est après manger, puis il y en a un, ça fait à peu près 6 mois qu'il est devenu membre.
Mm.
Il se lève debout, puis là, il dit, je voudrais vous dire merci à la gang. Il dit, si ça n'avait pas été de vous autres, là, il dit, je me serais suicidé.
Ah ouais, hein?
Il dit, je vous entends parler d'un salon, ce que vous faites, ce que vous réussissez à faire. Il dit, moi, quand j'ai perdu la vue, là, c'était fini, là, je ne pouvais plus rien faire, je ne pouvais plus rien faire. Puis je vous ai écouté, puis ça ne me tente plus de me suicider, là.
Mm.
Ça ne me tente plus, là, ça c'est...
Eh hey là là!
Ouais.
Fait que vous, s'il y a quelqu'un, mettons que cette personne-là qui trouve ça vraiment difficile d'avoir la déficience visuelle, qu'est-ce que vous lui diriez pour l'encourager ou pour lui montrer que les choses sont possibles quand même?
Ben, c'est un peu ce que je viens de te dire. Tu jases avec, puis tu lui montres que la vie n'est pas finie, qu'il y a d'autres belles affaires qui vont t'arriver si tu continues. Assis-toi pas dans le salon, puis braille, là.
Mm-hmm.
Lève-toi debout, puis sors. Sors, sois actif. Puis si tu n'es pas capable, tu passes à autre chose. Ouais. Tu passes à autre chose, mais regarde-nous faire, là. Regarde-nous qu'est-ce qu'on te raconte, qu'est-ce qu'on réussit à faire. puis tu vas t'apercevoir que la vie vaut la peine d'être vécue.
C'est un beau message, ça. Puis c'est de s'entourer, dans le fond, ce que j'entends aussi. Ouais. Tu sais, parce que vous parlez au nous, fait que c'est de rencontrer d'autres personnes qui ont une déficience visuelle, hein?
Oui, oui.
Tu sais, Bianca, on a parlé à quelques reprises d'organismes. Tu en connais quelques-uns quand même, des organismes où les gens peuvent, mais les regroupements comme ça sur Facebook, c'est génial. Pour aider les gens qui sont seuls ou qui se sentent seuls, t'en as-tu à...
Ben, je sais, il y en a plusieurs. Je sais que l'INCA, l'Institut national canadien pour les aveugles, ils offrent des groupes de soutien qui peuvent être soit en présence ou au téléphone là, ou via Zoom. Fait que ça, c'est apprécié parce que c'est un peu comme justement, ensemble, on est moins seuls avec nos cannes blanches, c'en est un. Celui de l'INCA aussi. Ce qui est bien, c'est de rencontrer d'autres personnes qui ont aussi une déficience visuelle. Ça peut être une... Pour quelqu'un à qui ça arrive puis qui connaît pas du tout cet univers-là, ça peut être inspirant de rencontrer d'autres personnes. Puis pas juste une personne. Tu sais, des fois, ils vont dire, j'ai connu déjà une personne qui a une déficience visuelle puis ça cliquait pas. Puis c'est normal. Il faut se faire des modèles, mais dans la vraie vie, quand on pense à... qu'on s'inspire de quelqu'un, on veut choisir plein de personnes, tu sais. Ben, c'est la même chose en ayant une déficience visuelle. C'est pas parce qu'on connaît une autre personne qui a une déficience visuelle que ça va nécessairement...
Qu'on a une image.
De... Qu'on a nécessairement une image de la déficience de visuelle puis que ça va nous inspirer. Mais si on rencontre plusieurs personnes, on peut prendre des petits trucs un peu partout, dire « Ah, telle personne fait telle chose de telle façon, ça me tente. » Tu sais, quelqu'un qui est un peu téméraire comme Serge, il va dire « Moi aussi, je suis comme ça! » On va aller faire... Tu sais, ça permet, mais quelqu'un qui serait pas du tout téméraire puis qui rencontre Serge, ça pourrait lui faire peur, tu sais. Fait qu'il faut rencontrer plusieurs types de personnes pour qu'on se reconnaisse dans les autres.
Serge, est-ce que vous sentez des fois une forme de responsabilité, un message à transmettre? Vous sentez ça?
On en fait tout le temps. Là. Regarde, comme elle vient de parler, à un moment donné, je suis dans à l'INCA, puis le gars, ça fait à peu près trois mois qu'il est avec. Puis là, son père est après lui, tu vas apprendre l'ordi. Faut que tu travailles sur l'ordi, J'ai dit, tes priorités à toi, là, c'est de prendre un cours de mobilité pour que tu sois autonome. Ça, l'ordi, ça va venir plus tard. Tu vas en faire de l'ordi encore, du téléphone, mais commence par être mobile, là, puis avoir ta mobilité, là. T'orienter, puis ça va aller mieux, là.
Bien, c'est sûr que quand on vous entend, vous voyagez, vous faites du sport, probablement que tu as envie de continuer. Quelqu'un qui perd la vue... Il doit se dire qu'il a envie de continuer à faire des activités physiques aussi, là, mais il y a des étapes, j'imagine, des deuils à faire, Bianca.
Puis tu sais, les gens aussi, selon leur force ou leur faiblesse, comment je peux dire, leur trait de caractère puis leurs aptitudes, quelqu'un qui est un grand sportif avant de perdre la vue, il va vouloir rester un grand sportif.
C'est ça.
Après avoir perdu la vue, quelqu'un qui est plus artistique, tu sais, ça peut être les deux sportifs, mais peu importe c'est quoi l'intérêt, on est la même personne avec moins de vision. Fait qu'il faut essayer quelqu'un qui était... Il y a des personnes qui voient bien puis qui se déplacent pas beaucoup, mais peut-être que eux, c'est pas l'affaire où commencer, mais quelqu'un qui est du genre à dire, moi, j'aime ça être spontané puis qui aime ça marcher, ben faut qu'il, t'sais, c'est d'essayer de se retrouver, dans le fond. Fait que des fois, les priorités viennent avec ce qui est plus facile pour nous puis avec ce qui est plus nos besoins puis ce qui est plus naturel. Il n'y a pas le même chemin pour tout le monde.
Mm-hmm.
Ouais.
Parce que les derniers Paralympiques, là,
celui
qui a gagné en ski alpin, qui a gagné une médaille d'or en ski alpin, ça fait 3 ans qu'il est aveugle.
Trois ans.
Il faisait du ski avant. Comme voyant, il faisait du ski avant. Il est allé faire du ski sur les glaciers. Puis s'est brûlé la corne.
La cornée,
puis il est devenu avec.
Ah ouais.
Puis tu vois, il n'a pas lâché, puis.
Il est allé au Paralympique. Puis ça a été irréversible. Il n'a pas retrouvé sa vue après avoir été sur les glaciers.
Puis tu vois, j'en ai un autre là, que je connais. Lui, il voyait très bien. Puis à un moment donné,
Un accident?
Non, un ACV.
Ah, OK.
Bon, un ACV. Puis là, dans la semaine, il y en a fait deux. Ils ont donné des Tylenol, puis ils ont donné des Advil. Il a perdu la vue. OK? Il a perdu la vue 4 ans.
Ben voyons.
Puis au bout de 4 ans, il a retrouvé la vue.
Ça, c'est spécial, ça, oui.
Il conduit son auto.
Ah!
Mais... Tu lui donnes le menu au restaurant, il va avoir de la misère à le lire. Il voit plus loin que de proche.
OK.
Mais ça, il conduit, en tout cas.
perdre la vue 4 ans.
4 ans, puis tu vois, quand il a retrouvé la vue, il était en maudit parce qu'il perdait ses amis. Ses amis étaient des amis qui étaient aveugles. Puis là, parce que quand il voyait, quand il a perdu la vue, ceux qui voyaient, ils ont perdu.
Mm-hmm. Puis quand il a retrouvé la vue, il a perdu de notre ami encore.
Bien, il en a perdu une couple, là, mais on a recommencé. Puis,
C'est spécial, ça.
Ouais.
Il y a une maladie qui s'appelle la maladie de Leber qui fait des fois quelque chose comme ça. Je ne sais pas si vous connaissez, Serge, mais tu sais, comme c'est souvent des hommes un peu plus, pas des femmes, c'est plus souvent des hommes. Puis jeunes hommes, ils sont voyants. Là, puis là, ils vont perdre, comme il y a une inflammation du nerf optique, fait qu'ils perdent vraiment beaucoup de vision. Puis il y en a que ça remonte, mais qui restent malvoyants. Fait qu'ils sont voyants, presque non-voyants, puis des fois après, ils redeviennent malvoyants. Fait qu'ils ont comme dans leur histoire de vie, des fois, 3 niveaux de vision.
Mm-hmm.
C'est spécial comme expérience de vie. Là, ouais. Ils vont dire, ah, ben moi, quand j'étais voyant, après, ben moi, quand j'étais aveugle.
Oui, oui. Les deux côtés de la médaille.
ils ont vraiment, c'est ça, les deux côtés de la médaille, puis même l'entre-deux, tu sais. Fait que c'est toutes sortes de parcours. Hein?
Ouais. Bianca, tu sais, le fait de rester actif puis de bouger,
ouais.
À quel point c'est important dans le processus de réadaptation pour une personne avec une DV?
Bien, de rester actif et de bouger. C'est sûr que c'est des choses peut-être un peu de base, mais pour tout le monde, quand quelqu'un va pas bien, on lui dit souvent de prendre une routine. Tu sais, souvent, la base de la vie, c'est d'avoir, tu sais, comme ta petite routine de dire « j'ai une raison de me lever, je fais mes choses ». Juste le fait d'être actif, c'est juste le fait, même quand c'est pas naturel, juste le fait de maintenir une routine, ça fait du bien, tu sais. Fait que je pense que c'est un petit peu la même chose pour quelqu'un qui a une déficience visuelle puis qui vient d'avoir le... T'sais, comme pour qui c'est récent. C'est normal, par contre, qu'au début, les gens ils soient un peu déboussolés puis que ça prenne un certain temps avant que tout ça revienne. Mais je pense que c'est important pour les gens qui ont une déficience visuelle, comme pour monsieur, madame, tout le monde, d'avoir une certaine... de pas tout le temps être à la maison. Puis, c'est ça.
Serge, vous, d'ailleurs, vous avez transmis cette passion-là hein, à votre fils parce que vous êtes papa d'un garçon. On dira pas l'âge.
Oui, oui. Ben, vous avez... J'étais précoce.
Vous avez transmis à votre fils cette passion-là de bouger, d'expérimenter, de faire des sports extrêmes.
Puis il l'a transmis à ses enfants parce qu'il arrive du Kilimanjaro. Là.
Fait que c'est un petit gène, là, ça, hein?
Ah oui. Ouais. Alors,
qui arrive du Kilimanjaro? Votre fils?
Mon fils avec ma petite-fille, mon petit-fils.
Wow. Ah, le père et les deux enfants sont allés escalader le Kilimanjaro.
Elle est allée fêter ses 27 ans en haut du Kilimanjaro.
Ah, c'est wow!
Ouais, ouais.
Wow.
Ouais.
Mais j'imagine qu'il vous regarde aller, puis que...
Ah, ben oui, écoute, le papy, là, il
c'est pas drôle, hein?
Ah non, le papy, là...
Ouais. Bien, c'est ça, quand vous dites vous bougez encore beaucoup. Vous voyagez moins, mais vous marchez encore beaucoup, puis vous découragez des fois les personnes avec qui... Les gens qui vivent près de vous, là, ils trouvent que vous sortez trop, qu'il fait froid, vous devriez rester chez vous.
Ben oui.
Vous vous faites dire ça.
Ben oui, ils checkent la température. Ah, il fait froid aujourd'hui, il fait moins 28. Que ça te donne, toi, tu sors même pas. Tu sors pas là. Fait que moi, je pars, je m'habille, puis je m'en vais, puis je vais marcher.
Moins 28, c'est pas un problème, ça.
Non, mais quand
vous marchez combien de fois par semaine?
Moi, je marche 3-4 km tous les jours, quand il fait beau. Puis là, j'allais à la piscine depuis 84. Ça faisait 42 ans. Mais là, depuis le mois de janvier que ma piscine est fermée, puis elle va réouvrir seulement qu'en octobre. Puis c'est ça qui me manque. Puis c'est là que je faisais mon cardio. Parce qu'à marcher, il n'y a pas beaucoup de cardio, là.
C'est vrai.
Mais,
depuis 84, vous n'avez pas arrêté?
Au moins une fois par semaine. Quand j'arrêtais quand j'étais en voyage ou quand j'étais malade ou qu'il n'y a pas de transport, mais je tenais ça, là.
C'est des bonnes distances, quand même, que vous nagez?
500 mètres.
500 mètres.
C'est 26 longueurs.
Quand même, hein? Moi, c'est bien. Fais-tu tes 26 longueurs, toi?
Non, non. Puis c'est à peu près l'époque où je suis née. Ça veut dire que j'aurais jamais arrêté de nager.
Ça m'impressionne. C'est ça. Oui, moi, j'ai mon câble. Je suis tout seul dans mon couloir.
Ah, c'est parfait. Ça fait comme ça. Pas de danger.
Au début, ils ne voulaient pas me le donner. Mais après ça, j'ai persisté. Là.
OK.
Elle ne voulait pas me le donner. Elle a dit... Je me rappelle plus. Je pense que ça me coûtait 5 piastres dans le temps. Elle a dit, je peux vous le donner, mais ça va vous coûter plus cher. J'ai dit, OK. J'ai dit, si je te donne 10 piastres...
Vous avez négocié votre câble dans
le site. Si tu me donnes mon... si je te donne 10 piastres, là, j'ai dit, tu me donnes mon couloir. Oui. J'ai dit, pourquoi tu me le donnes si je te donne 10 piastres? Tu me le donnes pareil, mon couloir. Je te donne rien, là, regarde, tu me fournis un couloir.
Vous revendiquez votre couloir.
Ben écoute, elle veut pas me le donner parce qu'il y a trop de monde, mais si je donne 10 piastres, c'est correct. Il n'y a pas bien.
Il n'y a pas moins de monde.
J'ai compté. Mais c'est ça. Non, regarde, 28 longueurs. Là, puis c'est là que je fais mon cardio.
Oui. Bien, je n'ai pas le choix de dire quand même. Vous allez avoir 80.
Malheureusement.
Ben non, heureusement.
On m'a fêté en fin de semaine.
C'est ça.
Bonne fête.
On a fait de la surprise en fin de semaine.
Wow, bonne fête. Joyeux anniversaire, 80. Je voulais le dire parce que c'est impressionnant de réaliser tout ce que vous faites. Oui. Les matins où vous sortez et qu'on vous dit, ben voyons, on ne sort pas, il fait frais, il pleut. Vous sortez quand même tout le temps. Vous sortez tout le temps, vous êtes... quand vous allez à vos rencontres avec le regroupement, vous jouez de la musique pour eux, vous jouez de la musique au centre où vous êtes, à la résidence où vous vivez, vous restez vraiment actif.
Bien, il faut, c'est le secret. Ça m'aurait donné quoi, là, rester assis sur le divan puis de brailler? Je n'aurais pas profité, j'aurais vieilli. Là, aujourd'hui, j'ai meublé mes souvenirs, regarde.
J'ai meublé mes souvenirs.
Oui, bien, c'est ça. Quand vous dites que vous avez meublé vos souvenirs, c'est quoi pour vous une vie réussie? Vous l'avez meublé, votre vie.
Bien, regarde, j'ai toujours fait ce que je pouvais faire, le mieux que je pouvais faire. Puis, disons que si j'en vois d'autres, qui voient, qui en font même pas à moitié.
C'est fou, hein? Ben non, je suis la première, là. Je suis coupable. Je lève ma main. Je fais pas la moitié de tout ce que vous faites.
Ah oui, parce que mes neveux, mes nièces, mon oncle, ben oui, mon oncle, c'est ça. Mon oncle, c'est lui qui tient l'arbre généalogique de la famille. Ça fait depuis 97. Chaque année, je les envoie le bilan de l'année.
Mais bravo, M. Lowe. Franchement, vous m'impressionnez. Je suis vraiment, vraiment impressionnée par votre parcours. D'ailleurs, Bianca, je t'ai souvent parlé de mon intelligence artificielle qui s'appelle...
Murphy.
Alors, Murphy, je lui disais, parce que je discute des gens qui viennent en studio avec moi, et là, je parlais avec mon intelligence artificielle, puis là, je lui demandais par hasard, est-ce que tu peux me proposer des gens qui ont des parcours de vie vraiment extraordinaires, qui ont une déficience visuelle? Alors, Murphy, mon intelligence artificielle m'a amené vers des gens qui vivent avec une déficience visuelle puis qui repoussent complètement leurs limites. Puis là, en les découvrant, je me suis dit, ben, je vais au moins vous en parler, Serge. Mmh. Bianca, je vais te présenter aussi. Parce que Serge, à sa façon, a fait la même chose toute sa vie. Il a avancé, il a essayé et il a rempli sa vie. Donc, il y a des gens qui ont des parcours comme ça. Alors, je vous parle de Derek Rabello, R-A-B-E-L-O. C'est un surfeur professionnel brésilien qui est né aveugle. C'est un jeune homme qui défie quotidiennement les limites physiques par sa résilience. Il est né en 1992 au Brésil. Il a une cécité totale due à un glaucome congénital. Et sa profession, c'est ça, il est surfeur de grosses vagues. Il est conférencier et motivateur. Puis, dans le fond, le jeune Rabello, lui, a grandi près de la mer puis a développé une fascination pour le son des vagues.
Oh, wow, ouais.
C'est le son des vagues qui l'a inspiré. Et son papa aussi, qui était surfeur amateur. Puis, il a appris à surfer juste grâce, en fait, à des repères auditifs et tactiles. Parce qu'il...
Ouais. Lui, il doit être à l'écoute de tous les sens. Là.
Lui,
les sens,
complètement, hein? Complètement. Alors, ses premiers succès, bon, là, je le dirais peut-être pas correctement, à Pipeline, à Hawaï, c'est un des spots, en fait, de surf les plus célèbres au monde, qui est situé sur la côte nord de Oahu. En fait, on fait de lui un symbole mondial de dépassement de soi, parce que lui, il surfe là aujourd'hui, à l'âge qu'il a. Puis au fil des années, Derek a surfé sur des spots là, les plus redoutés par les surfeurs qui ont une vision, là, qui sont voyants. Alors, il surfe sur des vagues géantes qui dépassent de 20 à 30 mètres de haut. Mais son mantra, c'est la foi avant la peur. Parce qu'il y a une approche spirituelle et puis... Il est un peu comme vous, Serge. Il tient vraiment dans la vie à bouger puis à montrer l'exemple.
Puis à ne pas se laisser guider par la peur, là, tout le temps.
Ouais. Exactement, exactement. Puis son parcours est raconté dans un documentaire qui s'appelle « Beyond Sight » et dans un livre aussi qui est « Beyond These Eyes ». Puis c'est... ouais, puis Derek, il participe à des conférences, des événements internationaux. Il parle beaucoup de ce qu'il fait dans la vie, mais il va dans les écoles et il leur parle de persévérance. Il va dans les écoles et dans les entreprises pour parler de persévérance. Alors, je trouvais ça le fun de parler de ce jeune homme-là. Mmh. Si vous pouvez aller le voir sur YouTube, un gars super inspirant. Donc, il est sur Instagram, Facebook. On peut aller voir le film documentaire sur YouTube, Beyond Sight. Et rapidement, Jesse Dutton, qui est un grimpeur britannique non-voyant, il est alpiniste et conférencier. Lui est né avec une dystrophie des cônes et des bâtonnets. Il a perdu progressivement la vue, mais il s'impose aujourd'hui comme l'un des meilleurs grimpeurs en paraclimbing du monde. Mm. Il est célèbre pour avoir mené la première ascension de... Écoute, c'est une drôle de montagne, là, The Old Man of Hoy.
C'est le nom de la montagne, ça? Wow!
Ouais,
The Old Man of Hoy.
Ouais, ouais. Okay. C'est une immense colonne. C'est comme une grosse colonne de roches naturelles en Écosse. Elle fait environ 137 mètres de hauteur. Et puis, elle est plantée directement dans la mer. Fait qu'elle est toujours battue par les vents et les vagues. C'est un site d'escalade qui est vraiment un des plus impressionnants et dangereux au monde. Mm. Alors, il fait partie de l'équipe britannique de paraclimbing. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens exceptionnels. Il y a des Serge Lowe de ce monde qui sont partout sur les réseaux sociaux. Puis je trouve que c'est le fun d'aller les voir puis d'aller s'inspirer. Tu sais, quand on... Je sais pas si toi, Bianca, t'as à inspirer les gens et à leur dire des fois... leur donner des petits coups de pied derrière, si on veut. Mmh. Il faut le faire des fois, je crois. Et il y a des gens partout, des exemples. Il y a des gens inspirants comme Serge, comme Jesse Dufton et Derek, dont j'ai oublié le nom, Rebello, qu'il faut aller voir sur les réseaux sociaux.
Mais merci de les avoir présentés.
Vous irez les voir, par exemple. Alors, Serge, un gros merci. Oui, gros merci pour votre présence. C'est vraiment très apprécié. Continuez de voyager puis de faire du sport, là.
Ouais. Ben, on ne lâchera pas près de lâcher. Là.
Puis gardez votre sens de l'humour. Ouais.
Bianca!
Si je ne me mets pas en santé, il va mourir en forme.
Mathieu, la mise en onde. Merci beaucoup, Bianca. Un gros merci à toi aussi. Puis on se revoit très bientôt.
À bientôt. Merci Nathalie. Merci, Serge.
Merci.